Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans le fauteuil, semaine 5 de la saison 2020 en NFL. Nous sommes en direct pour une heure, vous avez l'habitude, comme toutes les semaines. On regarde si tout est bien cadré, tout est bien cadré, c'est magnifique. Bonjour à Big Bob Noon qui est le premier arrivé sur le chat. Hop là, on met évidemment les liens habituels sur le site, on publie tout ça sur les réseaux sociaux et évidemment, on espère que vous passez un très bon dimanche. C'est mieux, je regarde un peu la caméra au début quand même pour vous dire bonjour. Donc je disais, très bon dimanche, on envoie ça hop sur Twitter, c'est fait, sur le site. C'est fait et sur YouTube, Facebook, pardon. C'est fait également. Bonjour à tous, je le disais, cinquième semaine de NFL. Il va encore se passer plein de choses et ne pas se passer certaines choses puisque le dimanche a été très agité encore une fois à cause de la Covid, mais on va y revenir. Pour l'instant, c'est à peu près géré. En tout cas, on va revenir là-dessus. Bonjour Aldo Lapache, Adeleios, Don SNG, Vince, Rapha, Lilius, Olivier, Flo07, Théophane, Baptiste, Titouan, qui j'ai raté, Mathieu, Ced, etc., etc. Je regarde que tout est bien parti. Donc, je disais, nous sommes réunis pour une heure de NFL et un tout petit peu d'autres choses. Alors voilà, on a bien posté sur tout ça et on est donc parti. Une heure de NFL ensemble. On va parler évidemment des matchs de la semaine, quelques pronos comme d'habitude. Toutes vos questions aussi, comme d'habitude. Et un thème de la semaine. Cette fois, on va parler des joueurs les plus sous-cotés. En NFL, il y en a beaucoup, à en croire vos messages que j'ai reçus cette semaine. Il y en a énormément, énormément. Dès qu'on a lancé le sujet joueurs sous-cotés, il y a des tonnes de noms qui sont revenus. Donc, oui. Il y a Flo07 qui dit timing parfait, qui commence juste après Roland Garros, ce fauteuil. Oui, je vais pas vous dire, je viens d'éteindre également. Félicitations à Rafael Nadal, évidemment, joueur incroyable. Il n'y a plus de concours là, pas dans cette émission. Je tiens à rappeler, alors attendez, je les ai devant moi, j'ai oublié de les mettre à côté de moi, hop là, que les stickers et les dessous de verre sont toujours disponibles dans les contreparties Tipeee. N'hésitez pas à aller y faire un tour et n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. Je vous remets le lien, hop là. Donc, je disais, n'hésitez pas à aller sur Tipeee, on a toujours les stickers et on a toujours les dessous de verre. C'est la même chose, mais en cartonné. Donc, il y a un joli bruit, allez. Donc encartonné pour poser évidemment votre bière, votre vin ou votre verre d'eau, car vous pouvez aussi rester sobre, ce qui reste toujours une bonne option. Bonjour à Jean-Baptiste, bonjour à Jean-Plain, à Pascal, à Alexandre, bonsoir à tous. Donc je disais, c'est sur Tipeee, j'ai dû recommander des stickers, j'ai dû recommander des dessous de verre. Enfin, ça part très très vite, merci beaucoup à vous, parce que franchement, ça me fonctionne très très fort, on n'a jamais autant marché sur Tipeee, donc énorme merci à vous, encore une fois. Alors, j'ai rien craché du tout, Nicolas, pour le maillot de Dan Marino, c'est Mathieu, un de nos rédacteurs, qui me les prête pour la saison. Il m'a prêté des maillots pour le décor, il y a Warren Sapp juste derrière moi, on a laissé Jared Goff en haut, et donc, ouais, Marino, là, j'en ai mis que deux autour de moi cette semaine, d'habitude, j'en mets trois. Je viens de recevoir un texto de Derek Carr, il demande à être enfin dans la liste des sous-cotés. Oui, alors on n'est pas là, on en a parlé un peu dans l'émission de cette semaine, on commence un peu à perdre la foi. La NFL, oui, alors ça, on va y arriver pour le Covid, vous inquiétez pas, ils vont s'ajuster. Donc, on va commencer par le débrief du jeudi, comme d'habitude aussi, avec Jamie Swinston sous-coté. J'espère que c'est une blague, Gus, parce que là, quand même. Bonjour à Simon et Elodie qui sont en place comme toutes les semaines. Donc, je disais, on va commencer par un débrief du match du jeudi, c'est la tradition. Nous avons eu un match entre les Bears et les Buccaneers. Jeudi, un choc, on peut dire, hein, de la NFC, puisque les deux équipes étaient à 3 victoires et 1 défaite. Et finalement, ça se termine par une victoire de Chicago sur le score de 20 à 19. J'aime bien le titre d'ESPN que j'ai sous les yeux, parce que je me suis mis les stats, qui dit « False bat encore Brady ». Alors, False bat Brady, je sais pas si on en est là, franchement, sur ce match. On va dire la défense des Bears bat Tom Brady. False fait ce qu'il peut pour marquer quelques points. On va résumer ça comme ça, parce que l'attaque de Chicago ne gagne quand même que 243 assez misérables yards. Donc, c'est pas encore... voilà, moi, je... J'aime bien la narrative autour de Nick Foles, les surnoms, etc., Big Dick Nick, tout ce que vous voulez, etc. Sauf que bon, enfin, se calmer, hein, c'est pas lui qui va chercher ce match. Loin de là, c'est vraiment une attaque qui a 3 sur 10 sur 3e tentative, qui gagne à peine 240 yards. Alors voilà, 208 yards à la passe. Enfin, encore une fois, les stats, elles sont catastrophiques. C'est pas... voilà, c'est la défense. La défense de Chicago est très bonne. Je pense que moi-même, je l'avais sous-estimée en début de saison quand on était dans les pronostics et dans les previews. Je pensais pas que cette défense serait aussi solide et qu'elle permettrait à cette attaque d'aller arracher des matchs, parce que c'est clairement le scénario. On est dans un scénario très Chicago, comment on dit, Chicagoien, Chicagoan, de par exemple, comment dire. Ça rappelle l'année où ils vont au Super Bowl avec Rex Grossman, quoi. C'est cette franchise, c'est Chicago, c'est-à-dire que les mecs ils peuvent gagner avec leur défense. Donc évidemment Khalil Mack ça aide, Jean-Baptiste, Chicago-esque, merci Théophane. Donc voilà, c'est un truc de Chicago, mais ça veut pas dire que cette attaque est bonne, ça veut pas dire que Nick Foles est vraiment bon. Donc voilà, c'est pas oui Chicago-esque, pas loin. Donc non, on n'en est pas là, on n'en est pas à Chicago. Ils peuvent aller en playoff parce que bah ils sont à 4-1, ils peuvent aller en playoff, je suis le premier à mettre fourré le doigt dans l'œil, je pensais qu'ils seraient beaucoup plus bas, mais ils peuvent aller en playoff. A priori, c'est dur de les voir passer 3 tours de playoff, parce que pour l'instant ils sont quand même encore en dessous de Green Bay dans leur division. Donc s'ils étaient wildcard, ça veut dire passer 3 tours de playoff, c'est quand même compliqué. Alors je sais que la défense gagne en hiver, hein, mais bon, on va quand même attendre avant d'en faire une équipe prétendante exceptionnelle. Voilà, c'est pas très beau à voir. Rafa a tout à fait raison sur le chat. Oui, il y a les énormes équipes spéciales. Fait ça la raison aussi à l'époque de Rex Grossman. Mais donc voilà, c'est pas du tout exceptionnel à voir. Du côté de Tampa Bay, il y a une bonne défense aussi, hein, mine de rien. La défense de Tampa Bay est très bonne. Là, il a juste manqué quelque chose en attaque. Parce que on en revient encore à ça. Ça fait 5 matchs avec un nouveau quarterback. Alors tout Tom Brady qu'il est, mais avec un nouveau quarterback dans une saison où il n'y a pas eu une préparation très très poussée. Donc voilà, ça reste un chantier. Ils sont à 3 victoires de défaite. Ils doivent être toujours en tête de leur division, si je ne dis pas de bêtises, puisque les Saints en ont perdu 2. C'est exactement ça, ça fait 3-2 Tampa, donc ils peuvent être rejoints éventuellement par les Saints et les Panthers ce week-end, mais il n'y a pas le feu au lac, ils sont encore en rodage, ils ont une bonne défense, c'est quand même ce qui est rassurant, parce qu'il y a les armes en attaque, donc maintenant il faut mettre un peu en ordre de match toutes ces armes. La jambe cassée de Vita Vea, c'est un coup dur en effet, ça c'est sûr. On remplace rarement un frigo américain comme ça au milieu d'une ligne défensive, mais bon voilà, ils ont des qualités, il y a même des bons jeunes defensive back, il y a la volonté David au milieu, tiens, puisqu'on va parler de joueurs sous côté. Donc voilà, c'est pas inquiétant pour Tampa, c'est un match du jeudi, c'est voilà, faut pas s'en faire. Brady surcoté, genre, on n'en est pas là non plus. Alors attention, on va balancer des surcotés sous-cotés là toute la soirée. Attention, utilisons les termes avec parcimonie. Il y a des tonnes et des tonnes de joueurs NFL qui sont tout à fait estimés à leur valeur, ne vous en faites pas. Bonjour à Jean Bleu qui vient d'arriver, Bertrand, on reparlera en fin d'émission. Cordarrelle Patterson, oui, on va en reparler, c'est vrai qu'il a été très bon aussi. Nick, c'était son premier match comme titulaire avec sa nouvelle franchise. Oui, mais bon, encore une fois, c'est Nick Foles. Peut-être que ça va progresser, mais ça sera pas exceptionnel. Je comprends la cote d'amour qu'a Nick Foles parce qu'il a fait quelques bons trucs et tout, mais c'est quand même les montagnes russes. Et l'an dernier, il arrive pas à sortir Garner Minshew d'un poste de titulaire à Jacksonville où pour le coup, il avait eu une intersaison complète. Voilà. Darth Vader, Matt Nagy sur côté en attaque, je suis pas. Oui, on peut faire. Comment dire? On peut faire les surcotés la semaine prochaine si vous voulez. Ça va être bien polémique aussi à mon avis, mais on peut faire les surcotés la semaine prochaine si vous voulez. Adam Gase sous côté en coach offensif, Julien. Ouais, là j'irai pas jusque là. Haskins sur le côté, ça c'est bon. Robinson a fait un bon match, il a permis à Chicago de faire avancer les chaînes. Oui, Allen Robinson, c'est un peu l'éclaircie hein, de cette attaque. Clairement, il y a pas de côté là-dessous, il y a pas de problème là-dessus. On va y arriver aux joueurs sous côté. Vous êtes chaud bouillant pour les joueurs sous-côté, sur-côté. Alors, on va commencer là-dessus, si vous voulez. On va enchaîner tout de suite là-dessus. Parce que là, vous êtes quand même bien, 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 bien ambiancé là-dessus. Donc, on va y aller. On l'a dit, de toute façon, pour Chicago et Tampa, on va attendre les confirmations. Mais on a la confirmation que la défense des Bears n'est pas là pour rigoler, qu'elle est très solide. Et que Tampa est encore un peu en rodage offensivement. Mais qu'ils ont une très bonne défense. Les donc joueurs sous-côté. On va faire sous-côté. On parlera des surcotés la semaine prochaine parce qu'il y a quand même déjà pas mal de choses à faire. De ce côté-là, il y a eu énormément, énormément de réponses sur ce sujet. Alors, je vois passer. Je regarde un peu les noms que vous me donnez et après, je vais vous donner une sorte de top 5, alors par catégorie, que j'ai essayé de monter un petit peu parce qu'il y a beaucoup de noms, encore une fois. Alors, Calvin Ridley, Andrew Whitworth. Cam Newton, Eric Ebron, Tyler Lockett, allez-y, allez-y, Andy Isabella, j'ai vu, Josh Allen, point d'interrogation, Kyle Rudolph, si on parle du tight end, oui, moins, ok, alors Byron Murphy, la Contredwell, Diggs, Marcus Peters, Ryan Tannehill, Za'Darius Smith, Chase Winovich, Tyler Lockett, TLN, Tariq Cohen, Martinez, le linebacker des Packers. Je crois que Blake Martinez, il est parti au Giants, si je dis pas de bêtises. DK Metcalf. Alors, Russell Wilson, je pense que vu qu'on n'arrête pas de dire qu'il est MVP depuis 4 semaines, je pense qu'il est plus sous-coté depuis un moment. Chandler Jones, Rex Burkhead, Buda Baker. Alors, je sens que les supporters des Patriots vont nous passer tout leur effectif en revue. Matt Milano, Tyler Higbee, Marcus Peters, T.Y. Hilton, T.J. Watt, Blake Bortles. Genre, celui-là, je pense que c'est une blague. Brockers, T.J. Watt, Juju Smith-Schuster. Bon, il y a du tri à faire. On va parler un petit peu de tout ça. Déjà, on va poser un peu les règles du jeu. C'est-à-dire, j'ai pas pris des gars qui pour moi sont sur la pente ascendante. Je prends un exemple, vous venez de parler de DK Metcalf dans les commentaires par exemple. Le mec est en deuxième année, il peut pas être encore sous-coté. Et il est en train de devenir une star déjà. Donc voilà, ça marche pas pour moi à ce niveau-là. Pour moi, quand on parle sous-coté, on parle de mecs qui font du gros taf depuis longtemps, ou en tout cas sur plusieurs années, qui ont montré sur plusieurs années qu'ils pouvaient être régulés au haut niveau, sans que ça fasse de bruit. Donc, pas de mecs qui ont explosé sur une année, ou qui, voilà. On parle de gars qui font de manière consistante, régulière, du bon boulot, qui passent trop inaperçus. Pour moi, c'est ça, sous-côté. On va pas. Les notes sur Madden, je les connais pas, Nicolas, j'y ai pas joué, donc je peux pas te dire. Donc, voilà. Déjà, ça définit un peu plus. Ensuite, genre Greg Olsen, Will Steve, Greg Olsen, il a longtemps été reconnu comme un des meilleurs tight ends de la ligue. Je vois pas de problème là-dessus, par exemple. On parle de mecs dont on parle moins, dont on parle peu, ou alors qui sont éclipsés. C'est aussi ça, que c'est aussi là-dessus. Alors, il y en a un qui est visiblement hors concours, là-dedans, qui est revenu énormément, dans la rédaction, déjà, je vais le dire, parce que beaucoup de membres de la rédaction sont convaincus qu'il est ultra sous-coté, et dans les commentaires sur Twitter, là où on a sondé un petit peu, c'est Lavonte David. Lavonte David, c'est le nom qui est revenu le plus, donc il est hors concours, on va dire. Le linebacker des Buccaneers, qui, je pense, a souffert de jouer dans une équipe qui était très mauvaise et qui prenait énormément de yards en défense pendant très longtemps. C'est vrai que Lavonte David, c'est, depuis son arrivée en 2012 dans la ligue, une machine à plaquer. Il est à 139 plaquages en 2012, ensuite c'est 145, 146, 147, 87, 101, 120, 123, et là il est déjà à 39 plaquages en 5 matchs. Donc il sac pas énormément, il a 22 sacs et demi en 8-9 saisons, enfin 8 saisons et demi. Mais voilà, c'est un patron de défense au milieu de la défense des Buccaneers. il est là, il fait le taf. Visiblement, voilà. Moi, je suis pas tout à fait sensible au charme de la bonté David, pour être honnête. C'est pas un des premiers noms qui m'était venu, mais je m'incline devant le vote populaire. Voilà, Josh Aubert est très bon, est une machine à plaquer aussi, Val, tu as raison. Mais voilà, je trouve que c'est en effet, selon les retours qu'on m'a fait, un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue. Ça risque de l'être un peu moins cette année. En effet, si les Buccaneers arrivent en playoff, ça pourrait être pas mal. On a ensuite. Alors moi, sur les commentaires, je vais vous répondre juste quand je pense qu'ils sont pas du tout sous-cotés, parce que là, vous balancez des noms. Il y en a, on les connaît. Kenny Golladay, le receveur numéro 1 des Lions, il fait le taf depuis 2 ans. Il n'est pas encore tout à fait sous-coté. Julian Edelman, il a été régulièrement parmi les meilleurs receveurs de la ligue. Tout le monde connaît son entente avec Brady. Il n'est pas sous-coté. Jaire Alexander, il est en train de. Je sais pas s'il est en train de devenir une star ou de devenir sous-coté, mais il est en train de devenir très très bon. Donc, je disais, première catégorie, à mon avis, ceux qui sont effacés par la grandeur qu'il y a autour d'eux. Là-dessus, il y en a deux de mon top 5. Par exemple, et pour moi, c'était le premier nom qui venait, c'est. Alors, tu vois, par exemple, Matt Ryan, Marc, on ne peut pas dire qu'il soit sous-coté, il est MVP, il a été reconnu. Ça, c'est. Il y a des mecs qui sont meilleurs maintenant, mais quand il a été MVP, il était reconnu. Donc c'est pas, on peut pas dire qu'il soit sous-coté quand il a été MVP. Donc le premier nom, moi, qui me vient quand on dit sous-coté, c'est Tyler Lockett, le receveur des Seahawks. L'an dernier, 82 réceptions, 1057 yards, 8 touchdowns, 10 touchdowns l'année d'avant, déjà quasiment 300 yards et 4 touchdowns cette année. C'est un des mecs les plus régulièrement efficaces. Une des cibles préférées de Russell Wilson. Si Wilson est aussi efficace en profondeur, c'est parce qu'il a des mecs comme Tyler Lockett. Donc clairement, voilà, c'est pour moi le standard du mec sous-coté. Tyler Lockett, il est vraiment, il est éclipsé aussi par le génie de Wilson, parce qu'on parle beaucoup de Russell Wilson. Avant, on parlait de Marshall Lynch. Avant, on parlait de la Legion of Boom. Alors, il était pas encore là, mais vous voyez l'idée. C'est une équipe où il y a des trucs forts qui se passent. Donc voilà, Tyler Lockett, à mon sens, il a commencé sur les retours en plus, donc il est un peu plus discret. Et il est vraiment devenu un receveur à part entière, très costaud en 2018 et 2019. Alors ça fait un petit échantillon, mais pour le coup, lui, ça se voit. Voilà, il n'y a pas de, y a pas de souci là-dessus. Donc Tyler Lockett, pour moi, c'est numéro 1. Autre exemple d'un mec qui est effacé par la grandeur autour de lui et par la grandeur sur le banc. Je dirais JC Jackson. JC Jackson, alors je taquinais voilà un petit peu les supporters des Patriots en disant ils vont nous passer tout l'effectif en revue. Là pour le coup pour JC Jackson par exemple, je suis d'accord parce que moi je par exemple un Rex Burkhead est pas sous-coté, il est dans son rôle, il a un petit rôle, il le fait bien bon. JC Jackson l'an dernier l'évaluation des quarterbacks contre lui, c'est 35-9. Déval, il a été ciblé 65 fois, il a autorisé 31 réceptions pour 328 yards et un seul touchdown. Sur les 3 premiers matchs de cette saison, il n'autorise que 46 yards sur les couvertures en homme à homme. Il joue moins de snaps, il n'est pas numéro 1, mais pour moi, il est éclipsé par Stephon Gilmore, par le fait que ce soit Bill Belichick qui dirige cette défense. Voilà. Et c'est un mec non drafté, qui est un titulaire hyper solide dans une des meilleures défenses de la ligue. Donc, clairement, il fait partie, pour moi, en tout cas, des mecs qui est pas si inaperçu. Alors il est dans la ligue que depuis 2 ans, Flo, on est d'accord. Mais pour le coup, je tords un peu la règle pour lui parce que je trouve que ça passe dans ces mecs qui sont vraiment qu'ont un parcours. Il a un parcours qui est fait pour être sous-coté. C'est-à-dire que le mec est non drafté, donc personne n'a parlé de lui quand il est arrivé. Et il est dans une grande défense qui sort toujours des bons mecs, donc on va pas le remarquer. Donc pour moi, il passe. C'est pas un gros souci. Le mec a déjà 9 interceptions en 2 saisons et 3 matchs, 2 saisons et 4 matchs. Donc clairement, c'est un des mecs qui passe un peu inaperçu. Donc JC Jackson, Tyler Lockett, ce sera les 2 premiers pour moi. Dans cette catégorie des mecs qui passent inaperçus parce qu'il y a de la grandeur autour, vous avez été plusieurs à le mentionner. Chris Godwin, du côté de Tampa Bay, clairement sous-coté. L'an dernier, il a 86 réceptions, c'est mieux que Mike Evans. Il a 1333 yards, c'est mieux que Mike Evans. Il a 9 touchdowns, c'est mieux que Mike Evans. Mais il est éclipsé par Mike Evans. Donc, allez comprendre, mais Chris Godwin est clairement, À mon avis, sous-côté. John Brown aussi du côté de Buffalo. Je pense qu'on oublie à quel point c'est un bon receveur et à quel point sa présence aide Diggs et inversement. En tout cas, ils s'aident tous les uns les autres dans ce groupe de Buffalo actuellement. Et Allen Robinson, vous voyez, on en a parlé tout à l'heure au moment du débrief des Bears. Clairement, je pense que c'est un joueur qui allait s'enfermer dans une mauvaise situation à Chicago. Et dont on parlerait beaucoup plus s'il était du côté de n'importe quelle équipe qui marche, les Seahawks, les Patriots, les Saints, ce que vous voulez. Donc voilà, il serait en tout cas plus efficace. Du côté de ceux qui jouent, alors haute catégorie, ceux qui jouent dans une équipe dont tout le monde se fout. Excusez-moi d'être un peu direct, mais par exemple, jusqu'à l'an dernier, l'arrivée de Kyler Murray. Et même un peu cette année, parce que l'an dernier, bon, ouais, Kyler Murray, c'était un peu une curiosité, mais c'était pas non plus une grande équipe. Chandler Jones, depuis 2012, là, si on veut parler de longévité et de mecs qui taffent dans l'ombre, depuis 2012, Chandler Jones, c'est 96 sacs. C'est plus que Von Miller, c'est plus que JJ Watt, c'est plus que tout le monde. Donc personne n'a réussi plus de sacs que Chandler Jones depuis 2012. 19 sacs l'an dernier. Et du coup, Chandler Jones, en fait, ce serait une superstar s'il était à Dallas. Ou s'il était. Enfin, le mec produirait des chiffres pareils à Dallas ou Pittsburgh. Ce serait monstrueux, quoi. Donc, clairement, moi, je pense que Chandler Jones est encore sous-côté. Mathias dit Buda Baker dans la même défense. C'est vrai qu'on peut plaider pour que Buda Baker. Encore une fois, c'est une définition un peu variable, mais oui, Buda Baker peut être cité, mais c'est loin de l'ampleur d'un Chandler Jones, qui est peut-être encore une fois un des mecs les plus sous-cotés de la ligue depuis régulièrement, depuis des années pour le coup, quoi. Je veux dire, y a même pas de comparaison avec d'autres. Baptiste Tredavious White, il n'est pas du tout sous-coté. Hein. Il est reconnu comme un des meilleurs cornerbacks de la ligue partout. Pareil, Clément Davante Adams, il est reconnu comme un numéro 1 incontestable à Green Bay. Non, Keenan Allen, pff, franchement, il est reconnu à son niveau. J'ai pas l'impression qu'il a été All-Pro, Pro Bowler. Franchement, voilà. Bobby Wagner, il est reconnu comme un des meilleurs linebackers de la ligue de manière régulière avec Luke Kuechly. J'ai pas l'impression qu'il soit sous-coté, franchement. Hein, son duo avec KJ Wright, ça marche aussi. Donc voilà. Mostert, c'est un joueur pour l'instant comment dire, de situation. C'est pas encore un gros coureur numéro 1. Encore une fois, je pense pas qu'il faille utiliser la casse pour les mecs qui performent un peu ou qui réussissent des trucs ou qui. On parle là vraiment de mecs de l'ombre qui sont constamment bons. Encore une fois, on en parle. Mostert, quand il fait un bon truc, on en parle. Kalius Check, on en parle quand il fait quelque chose. J'ai pas encore parlé de Dak Prescott, Ronan. Je ne sais pas pourquoi j'en parlerai dans cette catégorie. Donc voilà. Aaron Jones, il n'est pas sous-coté. Il fait son taf en ce moment. Alexander, il est aussi sur la pente ascendante. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Avec Za'Darius Smith, pourquoi pas? Mais faut pas mettre. Je sais que si vous aimez bien une équipe, vous avez l'impression qu'on n'en parle pas assez en règle générale. Mais faut pas mettre tous les mecs dans la case sous-côté. Robbie Anderson, par exemple, ça c'est une bonne truc, c'est cool. Je l'adorais quand il était du côté de New York. Je trouvais qu'ils avaient fait une erreur en le laissant partir. C'est un bon mec, alors pas forcément un très 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 haut niveau, mais voilà. Alors, il y a justement Rémi qui fait une très bonne remarque, parce que j'y arrivais concrètement. Pour les néophytes comme moi, ce sont les linemen qu'on connaît pas trop. Et c'était ma catégorie suivante, la troisième. C'est tout simplement parmi les sous-cotés, il y a un critère, c'est ceux qui sont linemen offensifs. Et pour vous dire, je sais pas si c'est mon ressenti ou pas, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelques années, quand on avait. En tout cas, vers les débuts du site, et il y a encore quelques années, j'avais l'impression que les noms des tackles et des joueurs de ligne, des meilleurs, étaient plus reconnus. Hein. Joe Thomas était une énorme référence du côté de. Je vais y arriver, de Cleveland, où il était tout seul à l'époque, il faut dire. Et il y avait quelques left tackles quand même qui étaient très reconnus, voilà, qui étaient des mecs solides. Du côté même de New England, la ligne, les linemen étaient quand même. Dan Copen, etc. Les mecs un peu de Matt Light sur le poste de tackle. Enfin voilà, il y avait des mecs vraiment costauds. Et j'ai l'impression qu'on parle de moins en moins des linemen offensifs. Donc, je vais en donner un sous-côté pour le coup, qui c'est peut-être tiré par les cheveux de ma part. Mais même un Ronnie Stanley, qui est All-Pro et Pro Bowler, donc je ne sais pas si on peut le dire qu'il est sous-coté, mais quand est-ce que vous entendez vraiment parler de Ronnie Stanley comme la référence au poste de left tackle? J'ai pas l'impression d'entendre souvent parler de Ronnie Stanley au poste comme référence à son poste, alors que le mec en 2019 sur 543 situations de passe, il autorise un seul sac et seulement 10 pressions. Donc il est aussi efficace au sol, puisque Baltimore serait pas aussi fort au sol sans lui. Donc voilà, je suis un peu donc je mets Ronnie Stanley dans les sous-cotés, alors que c'est un All Pro, c'est peut-être n'importe quoi. Yanda était plus médiatique, Emmerich. Franchement, pour le coup, lui était moins sous-coté. Alors on parle de Nelson, c'est vrai, on parle de c'est Quentin Nelson? Du côté d'Indianapolis, mais j'allais dire, on peut citer dans les sous-côtés Ryan Kelly, son coéquipier, on peut citer Mitchell Schwartz, on peut citer Joel Bitonio du côté de Cleveland, Brandon Scherff, J.C. Treter, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de linemen, à la limite, dont on pourrait parler, qui sont un peu sous-cotés. Andrew Whitworth, ouais, on en a parlé quand même à une époque. Hein. Franchement, on en a parlé à une époque, mais. Donc voilà, mais les Kelly, les Schwartz, les Scherff, les Bitonio, les voilà. Je pense qu'ils sont, ils peuvent être rangés dans ces catégories-là. La dernière catégorie, moi, que j'avais au niveau des joueurs sous-cotés, c'est ceux qui font un taf ingrat. Et ça, c'est assez simple. Ceux qui font un taf ingrat, c'est ceux qui font pas beaucoup de stats. Alors, il y avait les linemen offensifs, évidemment, mais même du côté de la ligne défensive. Il y en a justement du côté du centre de la ligne défensive qui sont là soit pour prendre la place, soit pour faire du grabuge et faciliter le boulot à ceux qui vont aller finir les sacs. Et ceux-là, eh ben, ils sont pas forcément reconnus. J'en ai pris un comme exemple, c'est Kenny Clark des Packers que vous avez cité plusieurs fois et que j'ai vu passer dans le chat. Oui, Bitonio mérite plus d'exposition en France pour son nom, ça je confirme, Théophane. Donc je disais Kenny Clark des Packers, un seul sac l'an dernier. Donc bah ouais, bon, pas gros impact. C'est vrai qu'on voit Aaron Donald, lui il en met beaucoup plus, etc. Mais 58 pressions sur le quarterback, alors que Aaron Donald c'est 53. Donc on voit pas tout, voilà, dans les comment dire, on voit pas tout dans les stats. Même s'il y en a de plus en plus, vous voyez les pressions sur le quarterback, on a ça maintenant. Mais en tout cas, Kenny Clark est un peu le symbole de ça. Grady Jarrett du côté des Falcons, notamment l'année où ils vont au Super Bowl et où il fait un match monstrueux au Super Bowl avant que les mecs s'écroulent. Cam Hayward aussi il fait partie de ça. Enfin voilà, il y a vraiment des gars sur la ligne défensive qui font du sale boulot, qui sont là vraiment pour charbonner et qui du coup sont moins reconnus que d'autres. Donc voilà, moi si je devais garder un top 5 en essayant d'être un peu représentatif, donc je disais ceux qui font un taf ingrat, Kenny Clark en étendard, les linemen offensifs, Ronnie Stanley en porte-parole, Chandler Jones en ministre de ceux qui jouent dans une équipe de tout le monde se fout, et Tyler Lockett et J.C. Jackson dans le groupe de ceux qui sont effacés par la grandeur autour d'eux. Encore une fois, après, je vais pas partir dans les des mecs qui ont un petit rôle et qui le font bien. Je vois passer, j'ai vu passer, désolé, ça allait trop vite. Travis Homer, Patrick Ricard, etc. Il y a des mecs qui font un petit rôle et qui le font bien. Je suis pas un grand fanat des équipes spéciales, donc je vais pas vous dire. Je suis pas team Matthew Slater au Hall of Fame comme une partie de la rédaction, je dois l'avouer. Parce que ça reste les équipes spéciales pour moi et que très bien, vous pouvez avoir le meilleur punter du monde, mais si vous n'avez pas d'attaque ou de défense, ça peut être problématique. Donc voilà, oui, les puristes vont me dire que c'est incroyablement important d'avoir un gunner incroyable, etc. Ouais, c'est surtout Tom Brady et Bill Belichick qui gagnent les 6 titres des Patriots plus que Matthew Slater avec tout le respect que je peux avoir pour lui. Sheldon Rankins, ouais, pourquoi pas. Après, c'est pas un des plus symboliques. Il a eu pas mal de blessures en plus de tout ça. Malcolm Butler, je sais pas. Il est à sa juste valeur. Il a été régulier, Butler. Maintenant, il est devenu solide. Bon, Cordarrelle Patterson, c'est pareil. C'est un mec qui est très fort dans ce qu'il fait, mais qui est quand même très épisodique. Voilà, moi, je parle vraiment de mecs qui font tous les dimanches du gros taf par personne, il va avoir des éclairs, très bien. Brokers, ouais, Brokers, il a été reconnu quand même à un moment. Max Crosby, je l'ai dit, bon, c'est un peu jeune, Max Crosby, c'était sa saison rookie l'an dernier. Duane Brown des Seahawks, ouais, même si c'est un poil moins dominateur qu'avant, mais bon. Ok, donc les kickers, les gunners, alors franchement, les kickers, il n'y a personne qui est sous-coté, il y en a juste un ou deux très bons. Ceux qui me viennent, c'est Justin Tucker et Harrison Butker. Voilà, c'est le top du top. Après, ils font ce qu'ils ont à faire. Derrick Henry est pas sous-coté. Tout le monde a été en émoi devant lui l'an dernier. Donc, a priori, est-ce que Kyle Rudolph coche mes cases? Oui. Après, ouais, Kyle Rudolph, il fait du taf solide. Il n'est pas non plus exceptionnel, quoi. C'est pas, il n'est pas dans la catégorie des Lockett, des Chandler Jones ou des. Ouais. Oui, oui, c'est un bon tight end. J'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus. J'ai pas l'impression qu'il soit au niveau des meilleurs. Nick Chubb, Kevin, je suis pas tout à fait d'accord. Là, c'est ton point de vue de supporter des Browns. Je pense qu'il parle parce que depuis le début de la saison, on dit que c'est un des meilleurs coureurs de la ligue. Donc là, il faut le retirer de la liste des sous-cotés.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, HELP.
Adrien Amos, ouais, Brandon McManus. Franchement, je trouve qu'on commence à gratter un peu. Que c'est pas, voilà, Chris Carson, c'est entre deux blessures, par exemple. Donc, je suis pas. Voilà, je suis pas tout à fait. Là, on a fait la Vontae David, on l'a déjà nommé, on l'a dit au tout début. Darius Les, pareil, il y a quand même eu un peu de bas. Qu'est-ce que je pense de Khalil Mack, Kevin? Bah, c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Il a déjà été élu meilleur défenseur de la ligue. Donc là, pour le coup, on n'est pas du tout dans la rubrique des sous-cotés. Que Jared Cook a fait le Pro Bowl, mais on en parle peu. Oui, parce que Jared Cook, il a été irrégulier aussi. Donc voilà. Quandre Diggs, ouais, ça c'est plus jeune. Les coachs sous-cotés, alors ça, il y a d'autres choses à faire, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de coach vraiment sous-coté actuellement. Hein. Franchement, je me gourre, je dis ça à la louche là parce que c'est ce qui me vient. Calvin Ridley, en effet, bah, il est éclipsé par Julio Jones. Ça fait combien d'années qu'il est là, Calvin Ridley? C'est clairement un receveur numéro 2, mais maintenant c'est une sorte de 1 bis, Calvin Ridley. Donc, est-ce qu'il est sous-coté? Ouais, attends, ça fait combien? Il est dans la ligue depuis 2018-2019. Ouais, on va pouvoir bientôt commencer à le dire. Après, il n'a pas encore de saison à milliard, hein, donc il n'est pas encore au niveau d'un Chris Godwin ou d'un mec comme ça dans le côté sous-coté. Comme Michael Gallup, pourquoi pas. Voilà. Qui est sous-payé? Alors ça, honnêtement, Jules, je vais être très honnête. Les salaires. Ça m'intéresse pas des masses. J'ai du mal à m'intéresser à ça et j'ai le côté comptable, GM, etc. Je suis pas le meilleur pour ça. Donc voilà, je vais pas me lancer là-dedans. Mais il y a des tas de joueurs qui sont bien payés, pas bien payés. Mais je préfère regarder directement comment ils jouent et on voit à ce niveau-là. Preston Smith qui est cité, oui. C'est pareil. C'est quoi ces saisons avant sa grosse saison de l'an dernier? Ouais, il fait des saisons correctes à Washington. Moi, je vais lui donner une saison j'aimerais bien qu'il confirme. Parce que l'an dernier, c'est sa première saison à plus de 10 sacs, alors qu'il est dans la ligue depuis 2015. Et il est à 0,5 pour l'instant. Donc, bon. Cooper, alors j'espère qu'on parle pas d'Amari, parce que Amari était quand même premier tour de draft, presque surcoté à un moment quand même. Hein, et il a complètement disparu. Non, Amari Cooper, il n'est pas sous-coté, il a complètement disparu en saison, en fin de saison dernière, c'était un scandale. C'est notamment parce qu'il disparaît que son équipe ne va pas en play-off. Donc voilà, pour moi, pas du tout. Amari Cooper, j'ai même l'inverse. Sous-côté, l'équipe médicale des Chargers, oui, bah, ils sont efficaces en défense, hein, ça c'est sûr. Les Sophomores, c'est particulier, oui. Eddie Jackson, il est quand même cité souvent hein, parmi les meilleurs safety de la ligue, le safety des Bears. Donc, je dirais même pas. Cooper Kupp, c'est pareil, hein, maintenant on le reconnaît comme la cible. Cooper Kupp et Robert Woods chez les Rams, en fait, tous les deux sont plus ou moins sous-côté, mais de moins en moins. Kupp est quand même plutôt bien, reconnu, honnêtement, je pense. Il en est qu'à sa deuxième année, mais Chase Winovich a le potentiel d'un futur grand sous-côté, oui, à voir. Après, avec les cheveux et tout ça, il a un potentiel. C'est con, hein, mais des fois ça joue. C'est comme Clay Matthews. Des fois, il y a un potentiel un peu buzz et affectif qui est là avec des trucs un peu genre les cheveux et tout. Je pense que si Winovich continue et que les Patriots gagnent, je suis pas sûr qu'il reste sous côté longtemps. Hein. Il y a des fois, il y a des mecs sur leur look qui deviennent sur côté. Donc Renfro, il est. Renfro, oui. Après, c'est un bon receveur. Il est pas encore. Encore une fois, là, ça dépend vraiment de votre définition de sous-côté. Mahomes, quatrième au classement de début d'année, je ne sais pas de quel classement on parle. Daniel Hunter, oh non, c'est le meilleur défenseur des Vikings. Donc non, après là, je pense qu'on est quand même pas mal. Philip Rivers, je n'irai pas jusque-là. Je pourrais peut-être même aller dans l'autre sens si je me laissais aller. Je pourrais peut-être presque en parler la semaine prochaine. La connaissance de la mode de Cam Newton est sous-côté. Bah, il connaît mieux la mode que moi, hein, clairement. Après, que la mode vous plaise ou pas, c'est une autre question. Tyrann Mathieu, il est pas sous-côté. Hein. JP, justement, ça fait partie des mecs qui étaient un peu dans le buzz aussi. Il arrivait avec des gros jeux, des machins, alors qu'au début de sa carrière, il avait quand même un peu de mal à rester en bonne santé. Il y avait tout un buzz autour de lui. J'ai vraiment pas l'impression qu'il l'ait vraiment été. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tous ces. Mais là, par exemple, je suis pas sûr que les coureurs des Niners soient vraiment sous-cotés. Je pense qu'ils bénéficient d'un système qui est très très bien foutu par Kyle Shanahan et que ça marche très bien. J'attends de voir quand même que si c'est des mecs qui peuvent porter le truc eux-mêmes, quoi. Corey Littleton des Raiders, j'avoue que moi j'ai toujours été un peu moins fan, j'ai des camarades dans la rédaction qui sont un peu plus, en effet. Garoppolo, non, il est à son niveau, hein, franchement, j'ai pas l'impression qu'il soit plus ou moins. Denzel Ward, ouais, mais Ward, c'est pareil, c'est un quatrième choix de draft, le mec, on en a parlé, on en parle quand il fait des bons trucs, il est sur la pente ascendante. J'ai pas l'impression qu'il soit pas pris à son niveau. Donc non, il y a pas mal de. Non, je pense qu'on a. Encore une fois, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Dibo Samuel, par exemple, j'attends d'en voir beaucoup plus avant de dire que le mec est sous-côté. Hein. Déjà, il faudrait qu'il soit sur le terrain, Dibo Samuel, parce que c'est quand même compliqué. C'est un mec de deuxième année. Pour moi, on est loin, loin, loin d'un gars qui serait sous-côté. Hein. Là, il a joué qu'un match cette année. L'an dernier, il en a manqué un. C'est un mec à 800 yards sur un qui en deuxième année, c'est pas, il faut qu'il en montre encore. Hein. DJ Moore, Minka, ouais, Minka Fitzpatrick l'an dernier, il fait un gros truc. Leighton Van Der Esch, il fait du buzz, il n'y a pas de problème pour qu'on parle de lui. Il est à Dallas, dès qu'il fait un bon match, on parle de lui. Donc non, Kerrigan de Washington à la limite. Lui, voilà, Kerrigan, Fred, lui, il serait arrangé à mon avis dans la catégorie de ceux qui jouent dans une équipe dont tout le monde se fout et qu'en pâtissent. Joe Tunney, oui, sur les linemen offensifs, Clément, bien vu. Aldon Smith, bah, il n'a jamais été sous-côté, c'est lui qui a déraillé sa carrière, et avec un peu de bol, bah, tant mieux pour lui, c'est en train de revenir. Avec Jonathan Allen, oui, il y a des mecs sur le front seven de Washington qui sont très bons, hein, Mathieu Nidis, en effet, Guillaume. Donc non, il y a des bons mecs. Encore une fois, là, on est dans le syndrome, mec qui joue dans une équipe dont tout le monde se fout. Donc on est là-dessus. On commence à revenir un peu sur les mêmes noms. Donc on va passer à la suite. Je prends vos questions sur autre chose. En même temps, je croyais en avoir oublié un, mais c'est pas très grave. En même temps, donc Nathan Peterman, on n'y est pas tout à fait encore. Donc vos questions sur autre chose, n'hésitez pas. Hop, n'hésitez pas. Donc, vos questions sur autre chose. On va se faire des petits pronos dès maintenant sur les matchs de cette semaine. Ce sera l'occasion de rappeler un peu où on en est. Je vais vous donner de l'info pure et dure sur ce qui s'est passé aujourd'hui déjà. J'aurais peut-être même dû commencer l'émission par ça et je m'en excuse. Donc, ce matin, on annonçait que les Patriots et les Titans avaient repris l'entraînement samedi parce qu'ils avaient réussi 2 jours de suite avec uniquement des contrôles Covid négatifs. C'est-à-dire qu'il faut faire 2 contrôles Covid négatifs pour tous les joueurs à au moins 24 heures d'intervalle, donc 2 jours de suite, pour avoir le droit de réouvrir les installations. C'est ce qui s'est passé pendant 2 jours. Tous les joueurs et staff testés, alors en dehors de ceux qui étaient infectés évidemment, donc tous les autres, des Titans et les Patriots, ont été contrôlés négatifs. Donc ils ont réouvert leurs installations, ils ont repris l'entraînement samedi. Le problème, c'est que aujourd'hui, les tests donc de la veille, de samedi, ont révélé qu'il y avait un nouveau joueur positif chez les Patriots et un coach positif chez les Titans. Donc, rebelote, les deux équipes ont fermé à nouveau leurs locaux et leurs centres d'entraînement. Pour les Titans, ils s'étaient pas entraînés quand même depuis le 29 septembre, donc ils ont coupé du 29 septembre jusqu'à samedi, et samedi ils se sont entraînés une journée, et ils ont refermé, donc ça complique les choses. Du côté des Patriots, ils avaient fermé que 2 jours, je crois, suite au contrôle positif de Stephen Gilmore, ils avaient dû fermer, je crois, une journée la semaine d'avant à cause de Cam Newton, mais ça donne donc de nouveau une fermeture. Ce dont on est sûr, et je vous le redis, comme je l'ai dit la semaine dernière, je ne donnerai que ce dont je suis sûr. Je ne ferai pas de conjecture, je ne ferai pas de supposition. On ne sait en dehors de ce qu'on sait. Ça ne sert à rien d'embrouiller tout le monde. Donc, ce qu'on sait, c'est que le match entre les Patriots et les Broncos, qui devait avoir lieu lundi à 23h, puisqu'il avait d'abord été reporté de dimanche à lundi, il est finalement reporté de ce lundi à la semaine prochaine. La semaine prochaine, les Patriots devaient être en semaine de repos. Donc pour eux, ça pose pas de problème. Les Broncos, eux, devaient affronter les Dolphins. Donc, ce match Broncos-Dolphins de la semaine prochaine sera déplacé à une autre date qui reste à confirmer. Évidemment, je suis pas tout à fait devant toutes les actus, donc je peux pas vous dire, mais la NFL va envoyer un communiqué et précisera évidemment la date précise de ce match. Je surveille en même temps si le communiqué n'est pas tombé. Donc, je disais, le Broncos-Patriots de ce week-end aura lieu la semaine prochaine, ça on le sait. Le match entre les Titans et les Bills, il devait avoir lieu ce dimanche. Il a été repoussé dans la nuit de mardi à mercredi. Pour l'instant, il n'a pas été décalé. Pour l'instant, il n'a pas été décalé. C'est tout ce que je peux vous dire. Évidemment, le contrôle positif du côté de... tiens, il y a mon ordinateur qui redémarre. Le contrôle positif du côté de Tennessee, évidemment, risque de compliquer les choses. Restez sur vos gardes et restez à l'affût d'actualité et de précisions éventuelles de la Ligue. On les relayera dès qu'il y en aura. Pour l'instant, le match est toujours censé se tenir dans la nuit de mardi à mercredi. C'est tout ce qu'on sait actuellement. Évidemment, ça commence à se compliquer. Tout ce que je peux dire, encore une fois, c'est ce qu'on sait. A priori, on va quand même pas s'inquiéter. La NFL va pas s'arrêter comme ça totalement et ils trouveront quoi qu'il arrive un moyen de terminer la saison. Puisque, encore une fois, en restant sur les faits, la NBA a terminé sa saison, la NHL a terminé sa saison, la Ligue des Champions a terminé sa saison, la Première Ligue, etc. Voilà, en dehors de la Ligue 1, qui, à mon sens, ne semble pas être l'exemple prioritaire de la NFL. Voilà, encore une fois, ce sont des faits, donc pas de panique. Pas de panique, c'est tout ce que je peux dire. La MLB termine sa saison, mais ça, j'avoue que j'ai pas regardé. Donc, quelle équipe de New York va être le numéro 1 de la draft, demande Isias. Alors attends, je reviens aux questions. Je vais faire les pronos quand même. Donc, pour rappeler l'ordre des matchs, à 19h, Falcons Panthers. J'ai pronostiqué les Falcons, même s'ils n'arrêtent pas de perdre, parce que j'ai confiance en Matt Ryan. Justement, il n'est pas sous-côté avec Calvin Ridley. Ils peuvent aller chercher quand même. Ils peuvent aller plus vite que cette attaque de Carolina. Je sais qu'elle est bien dirigée par Matt Rule et Joe Brady, Mais quand même, je vais parier les Falcons. Chiefs, Raiders, j'aime bien cette affiche. Je sais qu'il manque des receveurs du côté des Raiders, mais j'ai de l'affection pour les Raiders cette année. Je voulais qu'ils fassent une belle saison. Bon, là, ça risque de se compliquer. Ils vont pas réussir à suivre le rythme de Patrick Mahomes, mais ils vont essayer. Donc, ça donne Kansas City pour moi. Les Jets contre eux, les Cardinals. Bon, bah, les Jets qui sont probablement une des pires équipes de la NFL, on va pas le rappeler, avec les Giants aussi. Sam Darnold n'est pas là en plus, on va voir Joe Flacco jouer. Alors, c'est sûr que là, si vous êtes supporter des Jets à 19h, à mon avis, buvez plutôt de l'eau parce que ça risque de déraper sinon. Donc, plutôt les Cardinals. Pittsburgh-Philadelphie, c'est à 19h aussi, c'est un beau choc entre équipes de Pennsylvanie, même s'il n'y a pas vraiment de rivalité territoriale en NFL. Puisqu'ils sont pas dans la même division et encore moins dans la même conférence, mais c'est plutôt une belle affiche. Il y a Carson Wentz et Ben Roethlisberger. Il y a des beaux atouts défensifs. On a vu que les Eagles se sont bien relancés avec leur défense la semaine dernière. Donc je vais dire Pittsburgh parce que c'est plus complet et c'est beaucoup plus fort. Enfin la défense est très 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 forte et il manque tellement de monde autour de Carson Wentz qu'il va être en danger. Mais c'est une belle affiche. Washington, Los Angeles, c'est très déséquilibré. Kyle Allen sera le quarterback de Washington. Ils ont décidé de changer pendant la semaine. Dwayne Haskins n'est même pas au stade aujourd'hui parce qu'il est malade. Donc c'est Alex Smith, le numéro 2, à surveiller en cas de blessure de Kyle Allen. On pourrait avoir un retour d'Alex Smith. Bon, largement favori du côté des Rams, évidemment. Baltimore-Cincinnati, là encore, on a un gros favori, c'est Baltimore. Attention quand même, Joe Burrow montre des très belles choses. Si vous avez envie de voir un des quarterbacks qui représente l'avenir de la NFL, et ben là, c'est avec ce match qu'il faut accompagner votre fin de dimanche. Baltimore, évidemment, pour le pronostic. Houston, Jacksonville. Houston qui cherche toujours sa première victoire avec un nouveau coach, puisque Bill O'Brien a été viré. Donc, c'est Romeo Crennel qui est à la direction. Je parie Houston pour la petite réaction d'orgueil de cette équipe texane, surtout que Jacksonville est bien retombé quand même depuis 2 semaines, donc on va dire Houston. À 22h, on a 3 matchs. Donc là, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 matchs du coup à 19h. Il y en a 3 à 22h. 22h05, le premier, c'est San Francisco-Miami, avec le retour de Jimmy Garoppolo. Il y a plein de bonnes nouvelles cette semaine. Le retour de Jimmy Garoppolo, donc a priori, c'est quand même plutôt favori du côté de San Francisco. Ryan Fitzpatrick est toujours un bon quarterback sur courant alternatif, donc on va pas ça semble pas suffisant face à des 49ers qui restent quand même plutôt en place et qui ont besoin de se relancer de toute façon. Cleveland-Indianapolis, c'est un des beaux chocs de la semaine avec cette équipe de Cleveland qu'on a loué justement pendant le débrief des matchs de la semaine 4, qui avait bien trouvé son rythme face à Dallas, qui est devenue une machine au sol. S'ils arrivent à confirmer ça, en tout cas, ça va être un beau test face à une des meilleures défenses de la Ligue, statistiquement la meilleure, mais après 4 semaines, bon, ça reste un petit échantillon, mais une bonne défense qui sera privée de Darius Leonard. Et en attaque, les Colts sont privés d'Anthony Castonzo, leur left tackle. Donc ça fait 2 joueurs très importants qui manquaient Indianapolis. C'est pour ça que je vais aller avec Cleveland. Dallas-New York, c'est à 22h25, le choc traditionnel de la NFC Est. Là, a priori, la défense des Cowboys est catastrophique, bien évidemment. Mais l'attaque des Giants l'est peut-être plus encore. Donc, vu les capacités de Dallas à enfiler les yards et les yards et les yards et les points, celui-là, il devrait s'en sortir. Dans la nuit, à 2h20 du matin, on a un Seattle-Minnesota qui est pas vilain de la NFC avec les Vikings qui sont relancés en gagnant la semaine dernière. Et en face, Russell Wilson, DK Metcalf, Tyler Lockett et toute cette escouade offensive qui marche sur l'eau. Si la défense se fait pas marcher dessus, parce que la défense de Seattle a du mal, ça devrait quand même passer pour Seattle. On a donc on a un match dans la nuit de lundi à mardi. Ce sera les Saints contre les Chargers, avec évidemment les Saints favoris, mais les Chargers ont confirmé Justin Herbert titulaire, il court toujours après sa première victoire, et donc au moment où on se parle, le match entre les Titans et les Bills est programmé dans la nuit de mardi à mercredi. Je crois que c'est de l'inédit, je n'ai pas souvenir d'avoir fait ça une seule fois depuis que le site existe en plus de 12 ans maintenant. Donc Tennessee-Buffalo, ce sera à 1h du matin dans la nuit de mardi à mercredi. Le match New England-Denver est déplacé la semaine prochaine et les Packers et Lions sont en semaine de repos officiellement. Bobby Wagner, ça va bien s'occuper de Cook, t'inquiète. Eh bien écoute, oui, pourquoi pas, j'espère pour lui. Comment se fait-il qu'on pénurie de receveurs chez certaines équipes, Mikey, que le Crabtree est toujours free agent? Oui, après ça c'est Michael Crabtree, ça commence à faire un moment, donc il était un peu carbo quand même de mémoire. J'essaie de me retrouver les stats, mais ça fait quand même un moment. Après, pénurie de receveurs. Oui. Alors, il fait quoi, Michael Crabtree, l'an dernier? Oui, il fait 4 réceptions en 2 matchs avec Arizona. Donc, ouais, ce qu'il a un peu sur la fin quand même. Crabtree, à quel âge? Il est dans 87. Ouais, il a 33 balais. Ouais, ça commence hein, pour certains receveurs à être plus la fin. Avec Cleveland, la Deshiderada est un problème. Pouf, j'arrive plus à lire. J'ai peur pour Cleveland. Ah bon, il y a des gens qui ont du mal à avoir confiance en cette équipe de Cleveland, je sais. Je vais remonter un petit peu, voir. Alain, c'est la première fois que les Jets sont belles dans leur escouade de receveurs. Et leur escouade de receveurs à peu près sans blessure, en mime, tu verras qu'on va gagner et que Gaze va se servir de Flacco pour sauver sa face. Sauver la face, pardon. Je sais pas. Je sais pas, mais après, tout est possible hein, en NFL, mais ce serait étonnant s'ils arrivent à gagner là. Hein. Donc, je regarde un petit peu si vous aviez des questions. Tac, 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 tac. Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il pleut chez moi? Je crois pas. Hop. Les supporters les plus susceptibles entre ceux des Patriots et ceux des Bears, dit Jazzluck. Ah, Jazzluck, il veut m'attirer des problèmes. Est-ce que le Game Pass vaut le coup, Barry Sanders? Oui. Si tu aimes la NFL et que tu es anglophone ou que tu comprends un petit peu l'anglais, clairement, il y a tout. J'ai pas d'action, hein. Là, c'est pas sponsorisé, c'est rien. Moi, j'ai que le Game Pass depuis 10 piges. T'as tous les matchs en replay, en direct, le Red Zone, NFL Network en continu, etc. Donc, voilà. Jetez un œil si vous voulez pas faire des nuits blanches. En plus, il y a des versions maintenant du Game Pass moins chères avec le Red Zone. Je crois qu'il y a juste le Red Zone NFL Network et les résumés de matchs en 40 minutes. Qui est beaucoup moins cher, je crois 50 balles par an ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a quand même pas mal de trucs. Et après, si vous êtes français, il y a des solutions en français aussi maintenant. On a une chance incroyable en termes de couverture. Vous pouvez pas imaginer par rapport à il y a quelques années. Hein. Non, encore une fois, je suis pas sûr qu'ils abusent sur le tarif. C'est-à-dire que oui, c'est cher, mais après, si t'étales et que tu vois par rapport à d'autres abonnements. Il y a tout en HD qu'on veut. Moi, j'ai très peu de problèmes techniques, honnêtement. Et encore une fois, je vous dis ça, c'est pas sponsorisé ou quoi. On n'a pas de billes avec ça. Donc moi, c'est la truc de base. Hein. Voilà, il y a tout. Donc, mais encore une fois, il y a différentes formules. Encore une fois, alors si vous êtes vraiment en plus anglophone. Le tarif, il n'est pas que pour la saison, il va jusqu'au 31 juillet. Donc ça veut dire que vous avez tout NFL Network pendant toute la période de la draft, pendant la nuit de la draft, enfin voilà, vous avez tout. Donc clairement, voilà, y a Omar qui dit Téléfoot c'est 250 euros par an. Alors je vous laisse seul juste parce que je connais pas les tarifs de Téléfoot. 18h51, as-tu regardé le Hard Knocks de cette année? Nope, j'ai pas regardé. Donc j'avoue que j'ai un peu décroché de Hard Knocks. Je crois que Rex Ryan avait placé la barre tellement haut que plus jamais Hard Knocks n'a eu plus jamais Hard Knocks n'a eu la même saveur pour moi. Donc la bière. Alors il y a Jean-Baptiste et il y a surtout Bertrand qui attend ça avec impatience parce que c'est Bertrand qui me l'a envoyé et je le remercie énormément qui m'a envoyé une. Alors reçu hier, vidé hier soir. Hein. Donc alors attention, je précise encore une fois. Alors moi c'était pas avec modération, c'était avec des amis. Humour. Donc j'ai bu ça. Donc c'est la cuvée des jonquilles. Je répondrai aux questions après encore. Donc la cuvée des jonquilles qui a été offerte par Bertrand, que je remercie énormément. Je vous lis la description. C'est une bière de garde traditionnelle du Nord, une blonde à 7% avec des houblons locaux et un corps maltais, des notes florales et d'agrumes. Alors, pour être tout à fait... alors c'est marrant parce que la bouteille, en fait, on dirait une bouteille de cidre un peu. Moi, je trouvais la bouteille verte et 75 centilitres comme ça, ça fait bouteille de cidre. C'est la brasserie Au Baron, c'est écrit dessus. Pour être très honnête, j'ai été un peu surpris par les notes un peu florales au début. Vraiment, sur la première gorgée, j'étais un peu surpris parce que je sais pas une saveur que je connaissais dans les bières que j'avais goûtées jusque-là, mais en fait ça passe très bien. On a bu la bouteille à deux avec un ami hier, et ça passe très très bien avec un petit apéro et tout, nickel. Donc encore une fois, c'est une blonde, je vous dis, avec donc ces petites notes en effet un peu florales, et derrière pas mal de fraîcheur, une blonde assez sympa. Donc vraiment, encore une fois, merci à Bertrand pour cette découverte. Jean-Baptiste, tu dis que tu devrais boire ta bière pendant plutôt qu'avant. Alors non, justement, je l'avais précisé, je bois pas les soirs de match parce que il faut que je bosse. Et j'ai une résistance à l'alcool, mais alors qui est vraiment petite, 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 petite comme ça. C'est-à-dire que ça, à deux, pour moi, c'était suffisant. Donc, en général, je bois une bière le samedi ou le vendredi pour fêter la fin de la semaine. Mais ça me permet de la goûter tranquillement plutôt que de déguster comme ça devant. Les soirs de match, après, hop, je remballe tout. Et puis après, je vais bosser. Donc, je suis désolé. Je peux pas trinquer avec vous, mais c'est pas d'alcool pendant le service. Donc voilà. Comment j'ai trouvé l'amertume finale? Oula, Flo, c'est encore des termes pas trop techniques pour moi, mais je me sens pas encore assez expert en maîtrise. Non, je l'ai trouvée fraîche. Non, j'ai pas senti trop d'amertume en l'occurrence. C'est ça qui était pas mal pour le coup. J'ai bu une IPA pendant la semaine que j'ai senti plus amère, par exemple. Donc là, non, il n'y a pas eu trop de. Non, j'ai pas senti trop d'amertume. Encore une fois, surpris par les notes florales au début. Et en fait, ça finit par glisser, ça glisse tout seul, et c'est très frais, une bonne blonde, quoi. Donc, merci encore à Bertrand. On va revenir aux questions foutues pour les 6 dernières minutes. J'avais pas remarqué, en plus, que vous êtes aussi nombreux à nous regarder. Oui, l'IPA, c'est fait pour l'amertume, dit Jean-Baptiste. Je m'y mets petit à petit, mais pour l'instant, j'ai encore un peu de mal avec les IPA. Blond, triple, tout ce qui est belge, triple, etc. Ça passe. Alors, pour être complet, je vais vous dire, on a bu la cuvée des Jonquilles à l'apéro et une petite Guinness en dessert. Voilà. Donc, on va revenir au sujet du football américain. Alors, je vois qu'il y a des gens qui parlent beaucoup d'Hunter Renfro dans les commentaires. On l'a dit, je sais pas si on peut dire qu'il est vraiment sous-côté, c'est un bon receveur, c'est pas encore un mec exceptionnel. Il est vraiment dans le moule des slot receivers de ces dernières années. Il suit un peu les modèles des Edelman et des mecs comme ça. Après, c'est pas encore un monstre. Hein. L'an dernier, c'est sa saison rookie, car il capte 49 ballons. Bon, c'est un bon gars. Mais il est pas. C'est pas encore une superstar. Quoi. Enfin, c'est pas encore une superstar ignorée ou un mec vraiment sous-côté. C'est un bon gars qui fait son taf. Qui sera le prochain coach limogé pour moi? Là, on est dans une course Gaze, Patricia, Quinn, quoi. Donc Détroit, Atlanta, New York. Mais après, il faut être vraiment dans les, comment dire, il faut vraiment être, comment dire, dans les secrets des franchises au bout d'un moment pour savoir pourquoi certains mecs sont pas déjà virés, et donc à quel point ils ont les outils pour se maintenir en interne, parce que voilà. À quand le mur de canard derrière le canapé? Je comprends pas, Dagan. Il faudra changer la bannière du fauteuil derrière et les petits logos de fromage. Il faudra mettre des bières, dit Jérémy. Oui, et en fait, j'aime bien. J'adore ce décor. Donc, j'ai pas envie de l'enlever. Mais oui, il y aura. Après, ah si, attends, il y a un petit truc à boire, là. Je sais pas si on voit. Cadavre de bouteille. Il m'a fait peur, Dagan. Il y a des petits trucs à boire là sur le truc. Les bières vides, les gars. Mais vous m'avez fait peur, donc. Moi, je vais pas laisser traîner ça quand même comme un soulard sur. Je vais présenter comme ça avec des cadavres de bouteilles partout autour de moi, quoi. Pas des vrais cadavres, ça fait bizarre. Est-ce que vous faites sortir vos joueurs des Titans et Bills en fantasy? Oui, ça c'est des bonnes questions. Non, mais c'est moi, Dagan, qui ai mal compris. C'est du soda, Jérémy, mais bon, c'est... vous avez l'idée. Encore une fois, j'aime trop ce logo de Romain, que je remercie encore, il faut que je laisse ça là. Dilemme de la chevelure. Chase Winovich, Alexandre Anzalone ou Clay Matthews? Clay Matthews, c'était quand même le patron. Après, moi, je vais feinter, je vais dire Troy Polamalu. Troy Polamalu, c'était le vrai patron, quand même. Il y a Goff qui te fait des oreilles De tomber. Il y a Aaron, ah oui, il y a Aaron qui vient de tomber, pardon, qui fait des oreilles de lapin. Ah oui. Oui, il y a Aaron qui glissouille un peu. C'est parce que je me suis trop remué. Renfro, tu le mets dans une bonne team, il sera une superstar. Jamais vu un joueur aussi prêt à donner son corps pour attraper une balle. Ouais. Je suis pas, ouais, j'en suis pas là sur Renfro, franchement. Non, j'en suis pas là. Enfin, c'est un très bon joueur, hein. Il sera un bon joueur s'il est dans une bonne équipe, mais. Encore une fois, c'est ça, il a joué qu'un an, on va attendre de le voir. Après, qu'il soit volontaire, oui, mais il n'est pas le seul non plus. CMC a une date de retour, je crois que c'était 6 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Bon, c'était autour de 6 semaines, McCaffrey. Donc on va voir. Là, il a encore peut-être 4 semaines, je crois, d'absence. On est donc. Bon, il est 18h58, on va pas tarder à se quitter parce que ça va pas tarder à être l'heure des matchs. Le meilleur match à regarder, très bonne question de Guillaume, tiens, pour terminer. À 19h, moi j'irai vers le. Pittsburgh-Philadelphie. Ouais. Pittsburgh-Philadelphie. Indianapolis-Cleveland. Donc Cleveland, pardon, qui reçoit Indianapolis à 10h25. Et après, les autres matchs. Mais moi, je pars sur Pittsburgh-Philly à 19h et Cleveland-Indy à 22h. Tiens, ça, c'est les deux, moi, qui sont pas mal. Le Chiefs-Raiders, s'il est bien, ouais, j'ai failli le donner aussi, hein, Nitinia, les deux sont quand même pas mal. L'arme des Chiefs face aux Raiders, ce sera le sol ou Travis Kelce. Je pense que ce sera un peu tout. Hein, les Chiefs, ils attaquent un peu comme ils veulent, donc ça va être très très fort. Oui, il y a le Chiefs Raiders qui est sur l'équipe.fr, donc en effet, c'est une option gratos, clairement. Ok. Le meilleur match, à... oui, hop, ça j'ai vu. Tu es sur un match où tu as assez de monde dans la rédaction pour couvrir. Ouais, je suis sur un match, je sais plus lequel. Je sais plus. Je suis sur un match, mais ouais, je sais plus lequel. Que penses-tu du fait que Big Ben veut passer lineman? J'ai pas vu passer ça, mais pourquoi pas. Un carton, 4 touchdowns des Chiefs comme l'année dernière. Bon, voilà. 18h59. Je vais vous remercier une nouvelle fois d'avoir suivi cet avant-match. Je vais vous remettre le lien Tipeee. Si vous voulez vous procurer nos petits sous-verres, nos petits stickers et les magnettes. Si vous avez un frigo, il y a des magnettes maintenant. Hein. Donc oui, j'ai pas un match, j'ai une purge en effet. J'ai un des derniers que personne ne veut. Donc, y a des magnettes aussi hein, dans les contreparties Tipeee depuis cette semaine, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. On vous remercie encore de votre soutien. En tout cas, on a épuisé les pins, on passe aux magnettes, après on passera à autre chose. Voilà, donc on est vraiment très très content. Merci à tous. Il est 19h, c'est l'heure pour moi de vous laisser parce que c'est l'heure de la NFL. Très bon match à tous. On se retrouve mardi en audio pour le débrief, jeudi pour la preview de la semaine suivante, dimanche prochain pour un nouveau de fauteuil et ainsi de suite jusqu'à la fin de la saison. Merci beaucoup à tous. Très bonne soirée. Ciao, ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.